RFI.
Géopolitique. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous rejoindre à l'écoute de Géopolitique. On vient de célébrer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. L'icône de la politique africaine, symbole de la résistance à l'oppression, est décédé depuis 5 ans déjà, mais le souvenir de l'homme intègre dont l'obstination est venue à bout d'un régime politique aussi inégalitaire que cruel reste vivace. Dans sa prison ou dans son bureau de la présidence sud-africaine, Mandela bénéficie d'une aura extraordinaire dans le monde entier et devient un modèle pour les Africains du continent et de la diaspora disséminée aux quatre coins du monde, même si son action politique a parfois été l'objet de polémiques. Alors quel héritage a laissé le président, le militant, le combattant, le legs au monde de Nelson Mandela? C'est le sujet de Géopolitique ce soir avec nos invités que je vous présente tout de suite. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient. Votre dernier livre est une biographie de Kadhafi chez Perrin. Bonsoir Vincent Hugeux.
Bonsoir.
Et puis Francis Laloupeau est journaliste, professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme. Dernière parution France-Afrique, la rupture maintenant, point d'interrogation, chez Acoria Édition. Bonsoir Francis Laloupeau.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today.
Voilà, Nelson Mandela, le 11 février 1990, c'est le jour de sa libération de prison, et il dit « Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. Ce sont vos sacrifices inlassables et héroïques qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. » Premier discours donc d'homme libre hein, depuis 27 ans. On a l'impression, Francis Laloupeau, que c'est le trait commun de toutes les périodes de la vie de Mandela, cette volonté de n'être que l'émanation, le représentant du peuple.
Oui, en même temps, c'est celui qui incarne la communauté de destin, parce qu'il part du principe qu'en fait, la liberté individuelle est une garantie de la liberté de tous. Et c'était un combat collectif, quand même, pendant plusieurs années. Hein. Le combat de l'ANC, avec évidemment les contradictions internes à ce parti, mais c'est avant tout l'idée qu'on se met au service d'une cause, au service d'un destin collectif, au service d'objectifs que tous ensemble, on doit construire. Parce que tout le chemin de Mandela a été caractérisé par l'idée que pour transformer l'Afrique du Sud, il fallait d'abord passer par une forme de transformation collective.
Et unie. C'est oui. Le point sur lequel on va revenir tout à l'heure. On évoquait, Vincent Hugeux, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, la Révolution française et les révolutions d'une manière plus générale. Et nos interlocuteurs ont émis l'idée que les révolutions n'aboutissent que si un ou des acteurs émergent et prennent en charge les transformations amenées. Est-ce que Mandela est cet acteur-là de la révolution sud-africaine ?
Oui, avec en plus une sorte de dimension sacrificielle. Ce qui me frappe dans l'extrait qu'on vient d'entendre, et si on va un peu plus loin dans l'énoncé de ses paroles, on l'entend dire « Je remets par conséquent les dernières années de ma vie entre vos mains », donc référence christique, l'humble serviteur, et d'une certaine manière, il est très vite conscient que le fardeau quasiment iconique qu'il porte sera infiniment lourd à porter. Il dit d'ailleurs lui-même très souvent « Ce que je redoute le plus, c'est l'ampleur des attentes des plus humbles des miens. Mmh. » Il a cette conscience aiguë. Et d'ailleurs, quand vous parcourez un livre qui est paru assez récemment, c'était à la fin de l'année dernière, en novembre, une sorte de mémoire recomposée à partir de notes dont il n'a pas pu achever la mise en forme par des amis, des proches, des intimes, etc. Vous retrouvez ce portrait assez subtil de quelqu'un qui certes a de très fortes convictions, qui par exemple exècre l'injustice de tout son être, mais qui à peine a-t-il accédé à la magistrature suprême et d'une certaine manière étreint par les doutes, par sa propre capacité à répondre à toutes ces attentes, souvent contradictoires, puisqu'elles ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la nation du même nom.
Alors justement, après avoir pratiqué la lutte armée, prôné le pouvoir du dialogue quand il arrive président, le dialogue, la réconciliation, comment on explique? Est-ce qu'on peut parler de revirement déjà, Francis Laloupeau?
Non, parce que en fait, l'offre politique de Mandela était révolutionnaire dès lors que, il faut quand même dire que pendant plusieurs années, on imaginait une sortie de l'apartheid extrêmement violente. On imaginait évidemment, au-delà même de la guerre civile, un basculement total dans la violence. Je dirais, c'était l'une des hypothèses les plus retenues pour imaginer la sortie de l'apartheid. Et voilà que Mandela prône ce que certains ont appelé le pardon. Or, en fait, de pardon, il ne s'agit pas de pardon en tant que tel, il s'agit en fait de proposer une transformation collective, à la fois pour les Blancs que pour les Noirs. Et d'ailleurs, on le lui reprochera beaucoup d'ailleurs. Il disait souvent d'ailleurs, parce que je pense qu'on citera beaucoup Mandela au cours de cette émission, oui. Là, pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi devient votre associé. C'est une offre politique absolument inédite, quoi. Il fallait non seulement convaincre les siens, il fallait convaincre le plus grand nombre de tous ceux, évidemment, qui ont été victimes de l'apartheid pendant plusieurs années. Et donc, ce que Mandela mettait en place, je pense que lui-même, d'ailleurs, Vincent le disait il y a quelques instants, il proposait quelque chose qui le dépassait lui-même. Oui. Qu'on mette en place, je dirais, un processus de réconciliation qui soit parfaitement inédit, mais qui soit surtout accepté de tous et qui permette de tourner le dos à tout ce qui, jusque-là, évidemment, constituait ce contentieux historique absolu entre blancs et noirs, notamment.
Il faut, me semble-t-il, revenir quand même sur les trois temps historiques du rapport de Mandela à la violence et à la non-violence. Il adhère à l'ANC en 1943. Or, l'ANC ne sera interdit que en 1960, après le fameux massacre de Charleville. Bien. Or, au début, Mandela est un avocat qui prône la non-violence et la désobéissance civile. Et il fait le constat, avec ses camarades de lutte, de l'inefficacité, de l'innocuité, je dirais, pour ce racisme d'État qu'est l'apartheid, de cette méthode de la persuasion, de la désobéissance civile. Et c'est lui-même qui prend la tête de ce qui sera la branche armée de l'ANC, qui s'appelle donc l'Umkhonto we Sizwe, et il va suivre un entraînement militaire dans différents pays d'Afrique, dont l'Éthiopie, dans un camp près d'Addis Abeba, où il s'initie au maniement des explosifs, etc. Et il ne va pas pour autant prôner la lutte armée à outrance, mais, par exemple, le sabotage. Ou bien on s'en prend par des commandos à des bâtiments qui sont un peu les symboles de l'apartheid, parce qu'il veut limiter au maximum les risques de victimes collatérales. Et ensuite, d'une certaine manière, on revient au Mandela de la première époque, avec ce que disait à l'instant notre ami. Et je remarque d'ailleurs que il a des gestes symboliques, et Francis avait raison de souligner que ça heurte beaucoup aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Par exemple, un symbole qui est absolument éloquent. Lors de son investiture, le 10 mai 1994, qui trouvez-vous au premier rang, aux places d'honneur? Trois de ses gardiens de Robben Island. Donc cette île bagne dans laquelle il a passé, grosso modo, 10 000 jours et 10 000 nuits. Il leur donne l'accolade. Il déjeune avec le procureur Percy Yutar, celui-là même qui, lors du fameux procès de Rivonia, 1963-64, requalifie le sabotage en haute trahison, l'exposant ainsi au risque de la potence. Il va prendre le thé avec la veuve de l'ancien Premier ministre Hendrik Verwoerd, qui était l'un des théoriciens les plus abjects de l'apartheid. Donc voilà. Et ça, il faut simplement, et je termine là-dessus, admettre que il y a, notamment chez nous, une admiration presque instantanée, universaliste pour ce courage-là, mais il va heurter en permanence ceux qui le soupçonnent de tiédeur, d'excès, de compassion pour ceux qui nous ont écrasés pendant tant de décennies. Il va être dans cette tension-là en permanence.
On reviendra sur cet aspect intéressant de la personnalité de Mandela et de son rapport finalement à son peuple. Mais moi, j'aimerais bien comprendre d'où vient cette volonté de réconciliation, je dirais cet art du consensus que Mandela...
Vincent parlait il y a quelques instants, je dirais, des séquences, en fait, des temps dans le parcours, des moments dans le parcours de Mandela. C'est vrai que dans un premier temps, il y a eu l'option de la non-violence, inspirée d'ailleurs beaucoup de la philosophie de Gandhi également. Ensuite, il y a eu ce moment politique majeur, le massacre de Charleville en 60, qui a amené Mandela finalement à rallier ce qui, jusque-là, évidemment, émettait des doutes importants sur cette option de la non-violence. Et puis, il y a eu la prison. Alors, ce Mandela qu'on voit en 90, c'est le résultat d'un parcours, non pas seulement un parcours politique, c'est pas simplement le parcours du prisonnier, c'est le parcours d'un homme qui, en fait, a toujours considéré que, je le disais tout à l'heure, un combat politique en soi ne vaut que par la transformation de soi-même. C'est-à-dire, que devenons-nous au bout d'un long parcours? Est-ce que nous pouvons incarner nous-mêmes, individuellement, ce à quoi nous aspirons? Donc, il y a cette charge philosophique et cette charge spirituelle dans le parcours de Mandela, qui d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, a été évacuée, je dirais, de la chasse du pouvoir après Mandela. Mais cette charge philosophique et spirituelle était essentielle. Ça passait par des symboles, évidemment, au moment où il a été élu président. Ça passait également, je dirais, par ce qu'il prônait, cette réconciliation, cette nation arc-en-ciel. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'un combat politique ne vaut que par la charge spirituelle et philosophique qu'il porte.
Alors justement, l'idéologie de l'égalité entre tous les Sud-Africains, c'est profondément ancrée chez Mandela, on l'entend bien. On va écouter ce qu'il disait pendant la campagne qu'il amènera à la présidence de la République en 1994. Nous sommes le 17 avril de cette année-là. Alors il dit, j'ai lutté avec force contre la domination blanche, j'ai lutté avec force contre la domination noire, je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud où tous les Sud-Africains seront égaux, dit Mandela. Alors, 2 ans plus tard, la tonalité reste un petit peu la même. On est le 9 février 1996 et il répète sa volonté d'union entre tous. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu pour être certains qu'il ne se répète pas, dit-il. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Donc, après des décennies, je vous pose juste la question et puis vous reviendrez sur cette idée qui vous vient, Vincent Hugo. Après des décennies d'apartheid, cette volonté d'égalité a dû avoir finalement, vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, des difficultés à passer auprès des militants, des combattants anti-apartheid.
Nécessairement, puisque dans cette adversité féroce contre l'apartheid et son appareil policier répressif, il y a bien sûr une tendance naturelle que connaissent tous les mouvements insurrectionnels et révolutionnaires à la radicalisation, au refus absolu du compromis, puisque le compromis est perçu comme une sorte d'aveu de faiblesse. Et toute la pédagogie de Mandela, qui n'a d'ailleurs pas toujours recueilli l'écho que lui espérait, et d'expliquer que le compromis et le dialogue ne sont pas faiblesse, mais sont force. Et il dira d'ailleurs souvent à ses intimes, c'est ça ou le bain de sang. Parce que un de ses grands biographes disait que c'était le plus pragmatique des idéalistes. On pourrait à la limite inverser la proposition, le plus idéaliste des pragmatiques. Mais il a quand même ce sens politique qui est aiguisé par ses innombrables heures de réflexion solitaire et carcérale. Mais derrière ça, j'évoquais tout à l'heure, sans en faire une monomanie, la dimension religieuse christique. Quand on l'entend, il ne déclame pas, il prêche. Il y a quelque chose de profondément religieux. D'ailleurs, une des autres expressions favorites de Mandela, c'était de dire « attention, je ne suis pas un saint ». Toujours cette crainte que l'on investisse trop sur ses limites humaines. Mmh. Et puis, il y a un substrat philosophique, puisqu'on en parlait, qu'il faut évoquer, je crois, à ce stade, qui est la fameuse philosophie de l'Ubuntu, qui est d'ailleurs théorisée par Desmond Tutu, l'archevêque anglican fameux, prix Nobel de la paix lui aussi, qui va d'ailleurs écrire un livre qui s'intitule « Réconciliation, la théologie de l'Ubuntu ». Qu'est-ce que c'est l'Ubuntu ? C'est un mot qui est issu des langues bantoues d'Afrique australe, qui renvoie aux notions de humanité et fraternité. Et d'une certaine manière, le slogan, le leitmotiv de cette philosophie, dont Mandela est l'une des incarnations les plus éloquentes, c'est « Je suis ce que je suis, car vous êtes ce que vous êtes ». On se reconnaît humain et membre d'un tout qui nous est supérieur. On est soumis à une forme de transcendance. Et d'une certaine manière, ce qu'il va essayer de mettre en musique politiquement, c'est cette philosophie de l'Ubuntu.
Oui, et cette volonté presque forcenée, on va dire, de réconciliation, c'est ce qui amène finalement sa rupture avec Winnie, hein, la femme, la compagne de ses combats, bien plus radicale que lui.
Alors, avant d'arriver à Winnie Mandela, qui est
juste comme symbole.
Je vais juste compléter ce que disait Vincent, parce que sur l'Ubuntu, je pense que l'Ubuntu, c'est quand même central, hein, c'est une question centrale, parce que ça résume évidemment la charge philosophique dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, ça renvoie tout simplement à la construction d'une nation, de ce qu'on appelle généralement la communauté de destin. Et je vais ajouter que la réconciliation prônée par Mandela n'était pas simplement, je dirais, un énoncé philosophique, c'était aussi une stratégie politique. Parce que ce que portait l'idée de réconciliation chez Mandela, c'était « allons-nous devenir nous-mêmes ce que nous avons combattu hier ? Allons-nous devenir le bourreau que nous avons combattu hier ?» C'est quand même une offre essentielle et cohérente. Alors, pour revenir à Winnie Mandela.
La rupture avec Winnie est le symbole finalement de cette rupture avec les militants de la première heure anti-apartheid.
Je crois que c'était
au plutôt, plus proche de lui.
Je crois que la rupture avec Muni Mandela révélait, je dirais aussi, les qualités d'homme politique de Nelson Mandela, qui est capable évidemment de renoncer à ce qui relève de d'une part de lui-même, d'une part de sa vie privée, pour la raison politique. La raison politique primant tout, c'est essentiel. Ce qui fera de Winnie Mandela, au fond, je dirais, une victime expiatoire, je dirais, des choix politiques qui ont été faits après la fin de l'apartheid. Et on verra, on dira au moment de la mort de Winnie Mandela, qu'elle aura subi une immense injustice historique, finalement, parce que cette charge sacrificielle dont parlait tout à l'heure Vincent, ce qui concerne Mandela, d'une certaine manière, Winnie Mandela l'aura portée à sa manière, même si, évidemment, il y avait des raisons de penser que Winnie Mandela avait commis des actes que Mandela ne pouvait pas, de fait, cautionner dans cette construction de cette nouvelle Afrique du Sud, en tout cas qu'il appelait de ses voeux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Huju?
Pour moi, la fêlure est à la fois intime et politique. Effectivement, il doit sacrifier ce lien qui aura été exclusif, y compris derrière les barreaux pendant des années, pour des raisons politiques, précisément parce que il est lui-même profondément meurtri par les dérapages de cette sorte de milice qui, autour de Winnie, va extorquer des aveux, y compris sous la torture, et jusqu'au crime auprès de jeunes gars de Soweto qui sont suspectés, à tort ou à raison, et souvent à tort d'ailleurs, de jouer les informateurs pour l'appareil policier de l'apartheid. Ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de son goût absolu pour la justice, justement. Mais il y a aussi donc une fêlure intime. Vous savez, c'est une sorte de veuvage carcéral, la vie de Winnie Mandela. Oui. On peut être l'épouse à la ville d'un héros, mais d'un héros absent, même si son absence est écrasante. Donc, et on va retrouver d'ailleurs ça dans beaucoup d'aspects de la vie personnelle. Il est quand même extraordinaire de voir que, au fond, Winnie Mandela donc disparaît de la scène. Le communiqué très sobre que publie à l'époque Mandela est aussi une sorte d'aveu de chagrin profond. Mais il va retrouver la quiétude, et la quiétude intime et conjugale, avec Graça Machel, alors qu'il a près de 80 ans déjà à l'époque. Donc, et il y aura d'ailleurs, quand j'évoque les fêlures intimes, tous ces épisodes qui, là aussi, vont beaucoup le faire vieillir, ce sont les déchirements à l'intérieur de son clan familial. Et quand on regarde ce qu'aura été la dignité de Graça Machel à son chevet, alors que pendant le même temps, vous avez tel clan, telle caste de la grande famille Mandela, vous avez un fils qui va exhumer les dépouilles de trois de ses enfants, parce qu'il veut les rapatrier dans le secteur dont il est le député. Il y a aussi des bisbilles assez obscènes sur les produits dérivés issus de l'épopée Mandela, etc. etc. Et là, il y a des meurtrissures. Et dernière meurtrissure, c'est quand même quelqu'un qui perd trois de ses six enfants très jeunes. Et souvenons-nous de cette scène terrible. Il apparaît, silhouette fluette, presque tremblante, au moment de la finale du Mondial sud-africain 2010. Il n'est pas au match d'ouverture. Pourquoi ? Parce que la veille, la nuit précédente, une de ses arrière-petites filles, qu'il aime infiniment, est fauchée par une voiture. Oui, et il ne s'en relève pas. Mais il avance là deux fils, dont un avocat qui va être lui fauché par le sida, d'où les prises de position de Mandela qui sont en rupture totale avec les errements, par exemple, d'un Thabo Mbeki qui est dans le déni du VIH. Donc voilà, il faut en permanence, je crois, sentimentaliser à outrance la lecture que l'on fait de son parcours, comprendre aussi la part de l'intime dans ses choix.
La part de l'intime, pour en venir à Winnie Mandela, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je suis le fait que Mandela aurait décidé ce divorce en fonction des actes commis, en tout cas reproché à Winnie Mandela, puisque ces actes s'inscrivaient dans un contexte particulier quand même, du temps de l'apartheid, un contexte marqué en tout cas par des violences extrêmes. Et Mandela était capable, dans sa capacité à gérer les contradictions objectives, comme l'on dit d'ailleurs chez les marxistes, hein, puisqu'il venait également de cette école-là, d'intégrer, je dirais, dans son nouveau logiciel ces actes commis par Winnie Mandela. Sauf que, à ce moment de l'histoire de l'Afrique du Sud, c'était devenu politiquement incorrect. Donc c'était, pour moi, essentiellement et avant tout, un choix politique qui était doublé aussi du fait que les deux personnes étaient, au fond, étrangères l'une à l'autre. Je pense qu'ils n'auront vécu ensemble que 5 années, en gros, hein, c'est ça.
Et en pointillés, d'ailleurs. Oui, il y avait la clandestinité, il y avait les départs à l'étranger.
Mais ça reste une histoire d'amour contrarié.
Allez, on prend une pause quelques minutes puisque nous allons retrouver l'information, l'actualité sur Radio France Internationale. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Vincent Huju et de Francis Laloupo pour évoquer Nelson Mandela et son héritage à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Vous restez à l'écoute de RFI, un nouveau journal.
Géopolitique. François Bernard.
Géopolitique, deuxième partie, merci de poursuivre avec nous cette exploration d'un destin exceptionnel, celui de Nelson Mandela et de son héritage à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Si vous avez manqué la première partie de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. On a évoqué l'action du militant anti-apartheid, celle du président qui est devenu après 27 années d'emprisonnement avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, dont le dernier livre est une biographie de Kadhafi chez Perrin, et Francis Laloupeau, journaliste également, professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme et auteur de France-Afrique, la rupture maintenant, point d'interrogation, chez Accoria Édition.
Géopolitique.
Alors, Francis Laloupeau, vous racontez une rencontre avec Mandela en juillet 96 à Paris, une rencontre brève, poignée de main, sourire, et juste le temps de lui dire cette phrase « Nous sommes fiers de vous ». C'était l'essence de votre message à Mandela ?
Oui, je crois qu'en fait, ce message, d'abord, il fallait faire très court parce que c'était une brève rencontre, mais rencontre énorme, considérable. Je rends hommage d'ailleurs à ce métier de journalisme qui offre ces rares moments, je dirais. Mais il faut surtout dire que voilà, je suis d'une génération qui a milité contre l'apartheid et je me souviens évidemment des soirées, des longues soirées que nous passions ensemble quand nous étions jeunes, à évidemment parler de l'apartheid et à cette époque où on n'imaginait pas voir de notre vivant la fin de l'apartheid. Mmh. L'apartheid fortement soutenu encore quelques années plus tôt, je dirais, par les grandes puissances internationales, notamment la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc.
Et certains régimes africains.
Certaines capitales où faisait escale, d'ailleurs, UTA à l'époque, la campagne aérienne, pour pouvoir aller en Afrique du Sud, malgré le boycott à l'époque. Bon, voilà. Mmh. Et puis, cette rencontre s'est produite, donc, je crois que c'était à la Maison de la Chimie, lors du voyage officiel de Mandela en France. Et voilà, j'étais en face de cet homme qui m'a serré la main. Et j'étais frappé, je dirais, par ce mélange, je dirais, de force, de sérénité, de gravité, effectivement, chez Mandela.
Alors, je me suis demandé, moi, plus globalement, quel impact la personnalité de Mandela, son action, tue sur le regard des Noirs sur eux-mêmes dans ce monde encore marqué, on le sait, par l'histoire coloniale et la discrimination, au-delà de la fierté que vous
Ma génération avez. Et celle de mes parents, je crois que notre conscience politique a été en grande partie forgée par la question de l'apartheid, par le refus de l'apartheid, par la colère contre l'apartheid. Au fond, aujourd'hui, je pense que tous les peuples africains portent en eux Mandela comme étant le référentiel quand il s'agit d'apprécier, par exemple, la pratique politique, la gestion du pouvoir, etc. Si l'histoire Mandela n'a pas influé sur la gestion du pouvoir, en tout cas chez les dirigeants africains, il faut dire que l'histoire Mandela a rendu les populations, les peuples plus exigeants, en quelque sorte, vis-à-vis de leurs dirigeants. Et Mandela devient, je dirais, le point de référence essentiel pour juger de l'action politique. Mais c'était déjà le cas avant la fin de l'apartheid. Ça l'est devenu encore plus, mais beaucoup davantage encore depuis la fin de l'apartheid et depuis évidemment la présence Mandela, qui, il faut le rappeler quand même, aura fait un seul mandat et se soit retiré du pouvoir, là où les Africains attendaient à ce que, bon, finalement, ce soit Mandela forever, Mandela pour toujours.
Vincent,
il incarne une forme de référence embarrassante pour ses ex-homologues africains. D'abord par l'intégrité. Un des éléments dont il a le plus souffert après s'être effacé, et il a tenu à ne pas planer comme une sorte d'ombre spectrale sur ses successeurs, c'est la persistance et, je dirais, l'aggravation des phénomènes de corruption en Afrique du Sud. Il avait une vision de l'intégrité personnelle qui est aux antipodes des pratiques. Et puis, voilà effectivement un président qui aurait très bien pu enquiller un second, voire un deuxième mandat, même si sa santé commençait à devenir chancelante. Or non, il décide d'aller au terme de son mandat, mais pas au-delà. Exemple embarrassant, là encore. Donc, vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous êtes ainsi statufié de votre vivant, embaumé debout, vous devenez une référence gênante parce que vous tendez à vos homologues africains notamment, mais pas seulement, le miroir de leur propre turpitude. Et c'est pour ça qu'il y a, dans le culte, encore une fois, quasiment religieux, qui est accordé à Mandela, quelque chose de suspect. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas encourir le reproche de ne pas être l'égal d'un saint. Mais il n'était pas que cela. Il était un homme de chair, de sang, d'emportement aussi, quelquefois. Et donc, je crois que il suscite chez beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui cet embarras. Pour ce qui est des sociétés africaines, juste très brièvement, je vais citer le témoignage d'un activiste rwandais qui préside l'Alliance mondiale de la jeunesse. Il dit « Beaucoup de gens ont baptisé autour de moi leur enfant en son honneur. J'ai plein d'amis d'enfance qui s'appellent Mandela, que nous n'avons aucune connexion culturelle avec lui et avec son nom. Pour moi, il était porteur de concepts positifs, amour, liberté, paix, réconciliation, et aussi en tant que peuple de bergers, c'est un Rwandais qui parle, nous nous réjouissions qu'il ait gardé du bétail dans son enfance. » Donc il y a aussi cette dimension-là. Il n'est pas que le personnage éthéré et quasiment divin, il est aussi cet homme de chair, évidemment de sang royal hein, dans sa communauté Tchossa, mais qui a été bouvier, vaché, combattant de la liberté, etc. etc. Il y a tant de vie dans une seule aussi.
Un homme de chair et de sang, mais je revenais à cette rencontre que vous évoquez il y a quelques instants. Quand j'ai vu cet homme, quand j'ai dit « nous sommes fiers de vous », on était fiers, j'étais fier face à un survivant. Parce que l'apartheid, c'était une forme de génocide perlé, en quelque sorte. Parfois même génocide discret. Mais c'était le crime absolu. Ça a été l'un des crimes absolus de cette époque-là.
Et qui pourrait alors concurrencer Mandela dans ce rôle de chantre de l'africanité, plus généralement de la négritude, comme le disait Césaire?
Qui pourrait concurrencer Mandela dans le monde?
King, Bob Marley.
Ah. Si vous vous référez au Panthéon, évidemment.
C'est... Vous savez, si vous prenez le cas de Barack Obama, qui donc le 17 juillet a été invité à prononcer le discours annuel en hommage à Mandela, il avait deux références. Il dit d'ailleurs lui-même que sa première démarche politique, quand il était tout jeune, pas encore avocat lui-même, a été une manifestation contre l'apartheid. Il disait qu'il avait deux références outre Mandela, précisément Martin Luther King et Abraham Lincoln. Il y a toujours évidemment une connexion par rapport au sort des gens de couleur, des minorités, etc. Et d'ailleurs, c'était assez frappant. Il y avait une forme d'admiration mutuelle entre Mandela et Obama.
Et pour cause.
Mandela était, il l'a dit à ses proches, fou de joie lors de l'élection de Barack Obama en 2008, la première. Et quant à Barack Obama, il voyait effectivement Mandela comme un exemple et une référence morale et politique. Mais pour répondre très simplement à votre question, personne, en tout cas personne de connu, personne qui est émergé sur l'avant-scène politique, géopolitique mondiale, et qui puisse, d'une certaine manière, contester à Mandela la profondeur de l'expérience qui est la sienne. Parce que, vous savez, ce qui forge Mandela, c'est bien sûr ses convictions de jeune avocat, mais c'est aussi ses innombrables heures de solitude. Et quelque chose nous dit beaucoup du personnage. Que fait-il en prison? Il casse des cailloux, qui est évidemment une tâche vaine, stupide, inepte, avilissante. Mais il casse des cailloux en se récitant des poèmes, notamment en afrikaans. Il apprend la langue de l'oppresseur dans sa cellule de Robben Island. Et il mémorise et se récite des poésies en afrikaans. C'est une manière pour lui aussi, et c'est un acte politique, pour bien comprendre, donc mieux combattre l'ennemi, qui reste l'ennemi, sans aucun compromis ni compromission. Il faut le connaître de l'intérieur, et il a cette intuition-là.
C'est un destin unique, essentiellement, même si Mandela disait, répétait en permanence que son destin était essentiellement indissociable du destin collectif des Sud-Africains, c'est quand même un destin unique, comme le destin de Gandhi aussi était unique. Donc ce sont des personnages, évidemment, qui auront traversé comme ça, je dirais, le temps, avec cette charge particulière. Il y avait quelque chose, effectivement, de christique dans ce parcours, dans cette mission, en fait, que portait Mandela, ce fardeau aussi qu'il portait, évidemment. Mais ça reste, évidemment, des destins uniques, des références, tellement des exemples, des curseurs aussi, aujourd'hui, pour les peuples africains, qui peuvent, évidemment, considérer Mandela comme étant le référentiel absolu pour, par ailleurs, apprécier et évaluer la qualité du pouvoir politique dans leur pays.
Alors, comme on va pas non plus céder à la tentation de la canonisation instantanée. Je parlais de ses emportements tout à l'heure. Il a parfois eu aussi des fidélités suspectes ou contestables. Il avait conçu une telle gratitude envers tous ceux qu'il avait soutenu pendant les années de plomb, les années de clandestinité, les années de traque, qu'il a fait preuve envers eux, et je vais les citer tout de suite, d'une mansuétude, à mon avis, excessive. Je pense à Fidel Castro, bien sûr, à Muammar Kadhafi, ô combien, dont il n'a jamais dénoncé les travers et les dérives, mais même à Sani Abacha, le tyran nigérian, à la veille même de l'exécution de l'opposant Ken Saro Wiwa, hélas, Hélas, il n'y a pas de parole de Mandela pour condamner
mais
ça.
Mais tout cela est logique, Vincent.
Et je termine
c'est
avec...
C'est dans une logique.
Oui, ça s'explique. C'est mais ça. Je veux dire simplement que la perfection n'étant pas de ce bas monde, bah, il a eu aussi sans doute ses égarements. Et un dernier exemple, c'est vrai qu'il va finir en 2008, et d'ailleurs à Londres, ce qui symboliquement n'est pas anodin, par condamner le naufrage de Robert Mugabe dans le Zimbabwe voisin, mais il lui faudra beaucoup de temps. Et là encore, ça s'explique très bien, parce que Mugabe, ne l'oublie pas, même s'il est devenu le naufrageur de ce qui a été le grenier à blé de l'Afrique australe, a été aussi l'un des combattants les plus loyaux et les plus fidèles, l'un des soutiens les plus inconditionnels de la lutte contre l'apartheid. C'était le héros des pays de la ligne de front.
Il ne s'agit pas de canoniser, évidemment, Nelson Mandela, ça reste une figure iconique, mais là, je suis pas d'accord avec Vincent. Ce que vous appelez, vous, égarement, moi, j'appelle ça des contradictions objectives. C'est-à-dire que c'est une manière de gérer effectivement ces contradictions, ce qui n'enlève rien évidemment à la lucidité absolue dont il a fait preuve pendant tout son parcours. Cette lucidité est parfaitement compatible avec ces contradictions qui font partie aussi de son histoire. Il aurait renié ses amitiés, ses soutiens qu'il a eu pendant la lutte armée, qu'on lui aurait reproché. Le fait, je veux dire, qu'il intègre cela, qu'il y reste fidèle, c'est une manière évidemment de gérer la complexité de l'être.
Il prend ses distances avec Mugabe, certes tardivement, que ne l'a-t-il fait avec Castro, Kadhafi et Abacha?
Oui.
Le pragmatisme que vous évoquiez tout à l'heure, j'imagine. Allez, je voudrais vous faire
contradiction.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Nelson Mandela une dernière fois. On est le 27 juin 2008, il a quitté la présidence depuis 9 ans déjà et il est décidé maintenant à abandonner définitivement cette fois la vie politique. Écoutez.
After nearly 90 years of life.
Après quasiment 90 ans d'existence, il est temps que de nouveaux bras portent le fardeau. Il est entre vos mains désormais. Voilà. Nelson Mandela, donc le 27 juin 2008. Est-ce que le président retraité est resté un acteur engagé de la vie publique dans son pays, dans le monde, Francis Lalopo?
Il faut dire qu'il a été assez vite rattrapé, malheureusement, par la maladie. Mais il était fortement consulté, y compris d'ailleurs par Barack Obama, qui a essayé, évidemment, malheureusement, de le rencontrer, mais ça n'a pas pu se faire lors des dernières heures de Mandela. Alors, il était fortement consulté. C'était un peu, je dirais, le père de toutes les nations qu'on allait voir, qu'on allait consulter, et pas seulement des nations africaines d'ailleurs, des nations du monde entier. Et cela nous amène à parler peut-être, je dirais, de ses héritiers.
En Afrique du Sud.
En Afrique du Sud.
D'accord.
Hein. Et ce que je dirais simplement, c'est que voilà, qu'est-il resté au fond de cette charge philosophique et spirituelle, je dirais que Mandela considérait comme le socle de l'action politique. On voit bien que ses héritiers, en tout cas ses successeurs, hein, aussi bien Thabo Mbeki que Jacob Zuma, se sont davantage comportés comme des entrepreneurs en politique que comme des visionnaires.
Oui, c'est d'une certaine manière pire que cela. J'étais voilà quelques mois en reportage en Afrique du Sud pour travailler sur les émeutes xénophobes qui ont embrasé les townships d'Ipsloot, Alexandra, Soweto autour de Johannesburg. Quand même, souvenons-nous, hein, plus d'une centaine d'Africains assassinés en une décennie, 2008, 2015, 2017. Et je songeais souvent à ce que doit être le chagrin posthume de Mandela. Mmh. Car qu'avez-vous fait de mon héritage? Vous savez, il y a une question que posaient les intellectuels sud-africains sur les dernières années de la vie terrestre de Mandela, ce qu'on appelait la WAM question. What happens after Mandela? Qu'arrivera-t-il après Mandela? Eh bien, on est encore dans cette interrogation assez vertigineuse. Et n'oublions pas que Cyril Ramaphosa, qui a fini par accéder à la magistrature suprême, était au fond le dauphin, le poulain, celui dont Mandela rêvait qu'il accéda au pouvoir. Il n'y parvient pas parce que les manœuvres internes à l'ANC privent son poulain de cette fonction. Il prendra donc sa revanche quelques années plus tard. Mais quand vous regardez la trajectoire de Thabo Mbeki, et surtout de Jacob Zuma, moi je suis navré, mais je pense que Jacob Zuma incarne en grande partie tout ce que Mandela détestait. La prévarication, le mensonge, l'inconséquence personnelle, etc., etc. Donc, je crois que, hélas, si Mandela revenait ici-bas, il serait terrassé par la tristesse. Et puis, la nation arc-en-ciel, que l'on a certes magnifiée avec un peu de candeur, quand vous discutez ce que j'ai fait pendant des jours et des jours avec des Africains qui ont échappé de peu, Zimbabwéens, Mozambicains, Malawites, etc., à des sortes de ratonnades, à des sortes... Ce pays est malade. La société sud-africaine est la plus inégalitaire du monde, selon les statistiques de la Banque mondiale. Elle est incroyablement violente. C'est pas ça le message de Mandela. Alors, je veux pas dire que s'il était resté au pouvoir, non, bien sûr, son propre bilan est mitigé sur le plan économique, sur le plan social, etc. Aujourd'hui encore, à l'instant où nous parlons, 75% des terres privées d'Afrique du Sud appartiennent à la minorité blanche. Mmh. En même temps, il n'a pas cédé, lui, au délire de Mugabe en allant offrir de vastes fermes à des apparatchiks de l'ANC incompétents et paresseux. Mais c'est cette modération-là qui parfois lui est reprochée aujourd'hui. Mmh. Par exemple, on lui dit « Mais pourquoi n'a-t-il pas nationalisé massivement ?» Mais il ne l'a pas fait parce que le pragmatique idéaliste avait compris que c'était précipiter la nation arc-en-ciel vers le naufrage. Donc c'est pour ça que moi, je crois vraiment qu'il y a un dévoiement du message central de Mandela chez les acteurs politiques d'aujourd'hui qui ferait encore une fois son chagrin sans retour.
Je crois qu'il y a un dévoiement essentiel parce que il y a eu un renoncement initial quand même sur le plan politique. N'oublions pas que l'ANC était quand même fortement imprégné du dogme socialiste. Et une fois au pouvoir, qu'est-il resté de ce socialisme? Qu'est-il resté du dogme socialiste? Où sont passés les idéaux socialistes portés par l'ANC? Depuis Mandela, au fond, jusqu'à Cyril Ramaphosa, l'ANC a tout simplement adhéré, mais alors fortement adhéré au dogme libéral, à la pensée unique libérale, évidemment, qui prévaut depuis 90. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut demander aussi à l'ANC: qu'avez-vous fait de votre idéal socialiste? Je crois que là, il y a un renoncement initial que l'ANC continue de payer aujourd'hui. Mmh. Évidemment, le pragmatisme de l'ANC a été de mettre en place le fameux Black Empowerment, c'est-à-dire la promotion d'une élite financière économique noire. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quand même cette société fortement inégalitaire dont parlait Vincent il y a quelques instants. Et productrice de violence, de toutes les formes de violence sociale les plus terrifiantes. C'est cela, finalement, la société produite par l'ANC. Et moi, je pense essentiellement que cette société a été produite par ce renoncement initial. Je pense que, en 90, Mandela et l'ANC auraient pu trouver, je dirais, une forme de compromis historique entre les exigences économiques et, évidemment, ce qui relevait de l'idéal politique de ce parti.
Donc, au moins, Mandela, on va dire, l'homme aux qualités morales, personnelles qu'on connaît, le dirigeant prêt au compromis dès qu'il devient président dans sa conduite de l'État. Donc le débat sur cette ambivalence se poursuit en Afrique du Sud, ou est-ce que le mythe Mandela reste entier, Vincent Hugues?
J'écoutais sur RFI les témoignages de jeunes Sud-Africains autour du stade où ce fameux discours annuel a été prononcé cette fois par Obama. Eh bien, je dirais que la moyenne arithmétique de ces propos était extrêmement mitigée. Vous avez le respect, la loyauté due au grand homme, et vous avez donc des jeunes Sud-Africains qui peut-être avaient 2, 3 ou 5 ans lorsque Mandela exerçait le pouvoir, ou en tout cas sur son apparence, et qui vous disent « mais il n'est pas allé assez loin, mais il a fait preuve d'une tiédeur excessive vis-à-vis de nos ennemis ». Il y a aussi cette radicalité, alors qui est certes inhérente à la jeunesse, et pas seulement en Afrique du Sud, qui fait que, a posteriori, on instruirait un procès en modération excessive. Mais encore une fois, ne faisons pas d'anachronisme. Lorsqu'on se replace dans le contexte incroyablement fiévreux, incandescent de la fin de l'apartheid, s'il n'a pas cette intuition-là de la nécessité historique du compromis, le pays va vers une guerre civile sans fin. Donc, je veux dire, il y a dans ce procès posthume quelque chose qui me paraît injuste. C'était le prix à payer pour garder la ligne de flottaison au-dessus du niveau de la mer.
Ce procès posthume était inévitable parce que c'est aussi, je dirais, chaque génération fera son procès, chaque génération aura sa lecture évidemment de cette histoire-là, et on ne finira plus jamais, je dirais, de s'interroger sur les choix qui ont été faits en 90 par Mandela. Mais Mandela reste quand même, je dirais, pour l'ensemble des Sud-Africains aujourd'hui, une sorte d'élément fédérateur. Même pour cette jeunesse radicale, Mandela reste quand même le référentiel vers lequel l'on se tourne pour essayer, en tout cas, de décrypter la société sud-africaine. J'aimerais terminer par cette phrase de Mandela, justement, qui disait, après avoir gravi une haute colline, on se rend seulement compte qu'il y a encore beaucoup de collines à gravir. Je pense que c'est la meilleure parole, je dirais, de legs et d'héritage que Mandela pouvait offrir à sa population, c'est que, voilà, c'est à vous, désormais, de continuer à gravir toutes les autres collines.
Ce sera notre conclusion. Elle est magnifique. Merci à tous les deux. Vincent Hugues, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique, du Moyen-Orient, votre dernier livre, une biographie de Kadhafi chez Perrin, et Francis Lalupo, journaliste, professeur
professeur de géopolitique à l'Institut pratique de journalisme, dernière parution, France-Afrique, la rupture maintenant, point d'interrogation, à Acoria Édition. Merci également à Véronique Durand qui a préparé cette émission, Nathalie Laporte qui la réalise, Déborah Lepage à la documentation, et merci à vous de nous être fidèles à l'écoute de Géopolitique. Vous retrouvez Marie-France Chatin samedi prochain, et sur Radio France Internationale, un nouveau journal dans quelques secondes.